10h39, Martin McGuire, bonjour.
Bonjour, Paul.
Martin Lemay, bonjour. Martin bonjour, Parisien, Martin. Bonjour. Tous des Martins.
Bonjour, Paul.
Martin, on va y aller tout de suite, droit au but. Tu vas décrire ce soir, à une heure normale, ça je suis bien content,
oui.
Ce troisième match Canadien-Canucks. Es-tu...
Oui, puis...
Laisse-moi te poser ta question.
Pardon?
Es-tu frustré, comme beaucoup d'amateurs, de la fin de match à Vancouver l'autre soir, lorsque Tyler Myers a donné une mise en échec dangereuse à Joel Armia, commotion cérébrale, absent et aucune suspension?
Dangereuse et inutile, la mise en échec, parce que là, la Ligue nationale décide de ne pas suspendre Myers. Moi, je ne suis pas du tout en accord avec leur décision, parce que ce qu'on explique, là, dans le fond, Paul, c'est que si l'épaule de Myers était arrivée juste un petit peu plus haut, la mâchoire, la joue, là, on aurait suspendu, mais là, c'est arrivé au thorax. La résultante est la même. Le joueur est parti dans les airs, il a perdu son casque protecteur et il a une commotion cérébrale. Moi, j'étais un peu déçu qu'on en fasse cet exercice-là du côté de la Ligue nationale, que tant que le coup n'est pas directement à la tête, on ne suspend pas et on ne tient pas compte du contexte. Le contexte, Paul, c'est un match qui était perdu, c'est un match qui finissait pas de se terminer, dans le fond, et il n'y avait surtout pas de rondelle sur le bâton de Armia, ni même dans ses patins. Alors, on peut même pas dire que Armia s'est pas protégé adéquatement. Il n'y avait pas la rondelle. Alors, normalement, dans les règles fondamentales de ce jeu-là, Myers a même pas le droit d'aller le frapper, Paul.
Exact. Mais qu'est-ce que ça change? Dans la perspective du Canadien, qui va tellement bien, tu l'as bien exprimé à Danny à la fin du match, tu as dit le Canadien a bien répliqué avec un septième but. Voilà une façon de répliquer. Là, ce soir, on ne tombera pas dans l'ancien hockey où on veut venger Armia. On n'est plus à cette époque-là, en 2021. Mais quel vide ça laisse dans l'équipe?
Ça laisse un vide important parce que là, ce troisième trio-là, Kotkaniemi, Armia et Toffoli, commençaient à se mettre ensemble et à produire des choses très concrètes. Ça, c'est le vide que ça va laisser. Et en plus, Paul, comme le Canadien a 21 joueurs sur sa liste active, là, ils vont devoir probablement jouer à 11 attaquants et 7 défenseurs si Paul Byron est capable de jouer. Parce que Byron aussi, là, il a eu la rondelle sur un pied. Malheureusement, c'est Weber qui tirait. Alors ça fait encore plus de dommages à un pied quand c'est Weber qui tire. Alors là, si Paul Byron peut jouer, là, c'est sûr que Claude Julien défait ses combinaisons, là, parce que Mété ne pourra pas jouer à l'avant. Alors ce sera 7 défenseurs, 11 attaquants. Si, par exemple, Byron ne peut pas jouer, là, on va être capable d'aller piger dans l'équipe de réserve avec un attaquant supplémentaire. Puis là, ben, les options, vous les connaissez comme moi, là, ça peut être Frolic, ça peut être Perry, mais quoi qu'il en soit, le Canadien est entre guillemets obligé d'insérer Mété parce qu'il est sur la formation active. Mais là, là si tu commences à jouer avec tes trios, là, Paul, là, ça veut dire qu'à 11 attaquants, peut-être, là, Claude Julien, là, il brasse ses caps pendant tout le match. Et ça, la stabilité qui a donné du succès à l'équipe,
ouais,
c'est
mais,
terminé.
Mais là, comme tu dis, si on arrive avec 11 attaquants, on peut garder nos trios et amener une rotation sur le trio de Kotkaniemi avec Toffoli. L'autre chose que personne ne parle, on prend beaucoup de pénalités depuis quelques matchs et Armia jouait sur le désavantage numérique. Il était un
autre
des bons qu'on avait en désavantage numérique. Donc, on vient de perdre un soldat dans quelque chose qu'on n'est pas bon de ce temps-là, c'est-à-dire reprendre des pénalités.
Mais par contre, Martin, à ce chapitre-là, c'est peut-être un peu moins compliqué parce que Claude Julien a au moins trois duos d'attaquants en désavantage numérique et potentiellement, il peut même en avoir un quatrième duo. Tu sais, oui, c'est vrai qu'Armia est bon en désavantage, mais je pense que là, l'impact peut-être un peu moins important qu'à 5 contre 5.
Martin, on est très bousculé dans le temps. Je veux t'amener sur deux dossiers. Fais-nous une mise à jour. D'abord, Philippe Dano.
Philippe Dano, à l'automne dernier, il y a eu des approches entre les deux parties et le contrat qu'avait déposé le Canadien sur la table est un contrat qui n'était pas satisfaisant parce que le clan Dano considère que le contrat type de Jean-Gabriel Pageau signé avec les Islanders est un contrat où Dano n'est pas récompensé à sa juste valeur dans ce qu'il a comme impact chez l'équipe du Canadien. Dans le cas du Canadien, eux, de leur côté, ils se disent, ben la conjoncture structure économique fait qu'on peut pas vraiment te donner plus. Les deux parties sont vraiment proches, Paul. Mais c'est comme au football. Tu viens de faire 70 verges sur le terrain, il t'en reste 30. Les 30 dernières verges sont souvent les plus difficiles à franchir.
Alors, c'est un dossier ouvert, comme d'ailleurs celui qui entoure les rumeurs de Pierre-Luc Dubois qui va quitter les Blue Jackets, ça on le sait.
Oui, effectivement, plusieurs affirmaient hier que ça pourrait se faire aujourd'hui. Ça expliquerait pourquoi John Tortorella lui a fait réchauffer le banc vendredi. Là, peut-être qu'il avait une raison de lui faire réchauffer le banc, comme n'allons pas l'exposer à une blessure parce qu'on est vraiment prêt d'obtenir quelque chose. Là, il va être retranché pour le match d'aujourd'hui entre le Lightning et les Blue Jackets. Alors, ça vient de régler le problème, mais pour la carrière de Dubois et pour le bien de l'équipe de Columbus, il faut que le dossier se règle vite.
OK, une nouvelle dans ce dossier-là, ça vient de sortir. La transaction serait sur le point d'être annoncée. On parle de Patrick Laine et Roslovich qui partiraient des Jets de Winnipeg pour Columbus. Et Columbus donnerait Pierre-Luc Dubois et un choix au repêchage.
Ouais. Bon. Donc, c'est la logique, ça, Martin.
Oui.
On échange deux malheureux, ouais. Martin et Paul. Dans le fond, c'est un peu ça. Et en plus, là, les Jets de Winnipeg étaient très agressifs dans ce dossier-là parce que le père de Pierre-Luc travaille dans l'organisation et Pierre-Luc avait passé beaucoup de semaines de saison morte à s'entraîner autour des Jets.
Alors, on vous retrouve à quelle heure, Martin?
On est là à 18h ce soir, ouais, pour notre premier avant-match, dis-je bien, de 60 minutes. On reprend nos habitudes le samedi.
Si je peux vous faire sourire, c'est le fun parce que Pierre-Luc Dubois quitte l'Ohio pour le Manitoba, qui est comme l'Ohio du Canada. Et l'aîné part du Manitoba du Canada pour aller comme au Manitoba des États-Unis.
Deux
superbes provinces et États.
Il y a des belles choses au Manitoba.
Mais quand même, les deux directeurs généraux ont conclu une bonne transaction parce qu'ils échangent deux gars malheureux au moment où les deux principaux dans l'échange, là, les deux gars n'avaient pas de clause non-échange qui aurait pu bloquer le projet.
Merci beaucoup, Martin McGuire, Martin Lemay. Thérèse est rassurée, Suzuki ne sera pas impliqué dans une transaction pour Pierre-Luc Dubois. Voilà.